Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous venons de lire le récit de la multiplication des pains. Il s'agit de la deuxième multiplication des pains opérée par notre Seigneur. La première est racontée par les quatre évangélistes. Et celle que l'évangile d'aujourd'hui nous a rapportée, la deuxième, est uniquement rapportée par saint Matthieu et saint Marc. Et elle a eu lieu quelques mois après la première. Et dans des circonstances différentes, Jésus revenait de Phénicie, de Tyr et de Sidon, en passant par la Décapole. Nous sommes en hiver, et dans le récit que nous venons de lire, vous avez entendu qu'il est question de 4000 hommes, de 7 pains et de quelques poissons, alors que dans la première multiplication des pains, il était question de 5000 hommes et de 5 pains et de 2 poissons. Donc il y a bien eu deux multiplications des pains, quoi qu'en disent les exégètes modernistes qui voudraient que ce soit le même épisode raconté deux fois avec des circonstances plus ou moins différentes, parce que d'après eux, les évangélistes avaient tout à fait la liberté d'aménager plus ou moins les récits, puisque les évangiles ne sont pas absolument historiques. C'est tout à fait faux. Et d'ailleurs, notre Seigneur lui-même a attesté qu'il y avait bien deux récits un peu plus tard, parlant à ses apôtres qui redoutaient de n'avoir pas assez de pain pour se nourrir. Notre Seigneur leur dit « Quand je rompis 5 pains pour 5000 personnes, combien de corbeilles de fragments avez-vous remporté ?» Et ils répondirent « 12 ». Et notre Seigneur continue « Et quand je rompis 7 pains pour 4000 personnes, combien de corbeilles de fragments avez-vous remporté ?» Et ils répondirent « 7 ». Donc vous voyez bien qu'il y a deux épisodes distincts. Alors sans rentrer dans le détail, vous venez d'entendre le récit, le peuple qui est rassemblé en grand nombre, qui suit notre Seigneur depuis déjà 3 jours, notre Seigneur se trouve avec toute cette foule en un lieu retiré, et il convoque ses disciples, et il déclare qu'il a pitié de cette foule. Donc notre Seigneur montre sa bonté. Et le motif pour lequel il va opérer ce miracle, un des plus grands de l'Évangile, un miracle extraordinaire, c'est un motif de miséricorde. Notre Seigneur manifeste sa miséricorde envers son peuple affamé. Mais derrière tout ce récit, il y a la figure d'un mystère. Et c'est ce mystère dont nous voudrions vous entretenir quelques instants. C'est saint Augustin et saint Hilaire qui exposent de cette manière cette multiplication des pains, en l'appliquant au mystère de l'extension ou de la multiplication merveilleuse des moyens de salut dans toute l'histoire de l'Église. En effet, cette multiplication des pains, que ce soit la première comme la deuxième d'ailleurs, représente la merveilleuse extension des dons divins au peuple chrétien. La différence est celle-ci, d'après saint Augustin et saint Hilaire toujours, la première multiplication, disent-ils, évoquait l'extension des moyens de salut au peuple juif par le ministère des prophètes, tandis que la deuxième multiplication veut signifier l'extension ou la multiplication des grâces divines aux gentils, c'est-à-dire aux païens, par le ministère de l'Église cette fois. Et la raison pour laquelle les pères de l'Église interprètent ce récit de cette manière, c'est parce que dans les paroles de Jésus, nous venons de lire ces mots, Jésus dit « Quidam ex eis de longe venerunt » Certains d'entre eux sont venus de loin. Et de fait, les païens ont fait, au plan moral, une route plus longue pour venir à Jésus que les juifs qui avaient reçu les promesses messianiques et qui donc aurait dû reconnaître notre Seigneur beaucoup plus facilement. Dans sa bonté, c'est un geste de bonté, « Miséreor super turbam », j'ai pitié de cette foule, dit Jésus, donc notre Seigneur va distribuer le pain de sa parole et de ses sacrements, et il les distribue à tous les peuples au cours de l'histoire de l'Église. tous ces peuples venus de loin pour l'écouter, qui ne pouvaient l'écouter directement, évidemment, puisque notre Seigneur n'est resté qu'une trentaine d'années sur cette terre, sans sortir des frontières, ou pratiquement sans sortir des frontières de la Palestine, mais par le ministère des apôtres et de leurs successeurs, ce sont les peuples du monde entier qui ont entendu la parole de Dieu et qui ont pu se nourrir du pain de sa doctrine. Alors, dans ce contexte, la foule qui est venue avec Jésus, ou plutôt, comme dit le texte, qui l'attend depuis 3 jours. Le texte dit « Iam triduo sustinent ». Ils sont là, ils demeurent, ils attendent depuis 3 jours, dit notre Seigneur. Eh bien, cette foule représente le genre humain tout entier. Et ce genre humain attend depuis 3 jours. Le premier jour, c'est le temps de la première révélation faite à Adam. Le deuxième jour, c'est l'Ancien Testament. C'est la révélation faite aux Juifs, l'Ancienne Alliance, le temps de la loi de Moïse. Et puis le troisième jour, c'est la révélation faite à tous les peuples, aux païens, par les apôtres. C'est le temps de la grâce, après l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus est venu à l'aurore de ce troisième jour, il s'est incarné, il a enseigné les ignorants, il a guéri les malades, et il a surtout opéré notre rédemption en montant sur la croix et en mourant sur la croix pour nous sauver. Mais, et c'est là que nous rentrons dans le texte de l'Évangile lui-même, sa miséricorde n'est pas satisfaite. Notre Seigneur est mort sur la croix, il a sauvé tous les hommes, encore faut-il que les hommes puissent être atteints par tous ces mérites que notre Seigneur leur a conquis, leur a acquis sur la croix. Misereor super turbam, j'ai pitié de cette foule. On peut penser que du haut de la croix, notre Seigneur a vu tous les peuples, tous ces païens, toutes ces âmes, à commencer par les nôtres, qui, dans tous les temps qui devaient s'écouler après sa mort, tous ces peuples assis à l'ombre de la mort, dans le péché, dans les ténèbres de l'ignorance, auraient besoin du salut qu'il avait acquis pour eux sur la croix. Alors, notre Seigneur convoque ses disciples et il les interroge, pour leur dire justement qu'il a pitié de cette foule et leur demander comment pouvoir nourrir cette foule. Dans ces mots, on peut voir l'institution de la Sainte Église. Sous la conduite de l'Esprit-Saint, les ministres de notre Seigneur vont dispenser aux âmes les grâces et les dons que notre Seigneur multiplie au fil des siècles, au fil du temps. Notre Seigneur dit « Je ne veux pas les renvoyer à jeun dans leur maison de peur qu'ils ne défaillent en route » car beaucoup sont venus de loin. Cette maison où chacun d'entre nous doit aller, où cette foule doit retourner, c'est le ciel. Nous sommes venus de Dieu, nous avons été créés par Dieu, et nous devons retourner à Dieu. Notre maison, c'est le ciel, c'est notre vraie patrie, c'est pas du tout cette terre. Et la longue route à parcourir pour rejoindre le ciel, c'est notre vie humaine, pénible et pleine de dangers à beaucoup d'égards. Et chacun d'entre nous devons parcourir cette route, et pour pouvoir la parcourir, justement, il faut des grâces, de soutien, il faut que la miséricorde de Dieu nous accompagne. Et c'est ce que symbolisent précisément les 7 pains et les petits poissons que notre Seigneur va multiplier, ce sont tous ces secours, toutes ces grâces sans lesquelles on défaillerait, voilà, en chemin. Donc c'est pour nous éviter cette défaillance que notre Seigneur va multiplier ses pains et qu'il va les donner par les mains de ses apôtres et de tous leurs successeurs. Alors Jésus interroge ses disciples et les disciples avouent leur impuissance. Là aussi c'est intéressant d'appliquer ces quelques mots notamment à la situation que nous vivons aujourd'hui. Les apôtres, à la question de notre Seigneur, répondent ainsi « Comment quelqu'un pourrait-il rassasier cette foule ici dans le désert ? Comment faire ?» Alors, cette question peut-être un peu nous étonner. Quand on replace dans le contexte, les apôtres avaient vu quelques mois auparavant, donc ils devaient bien en garder le souvenir, un miracle équivalent. La première multiplication des pains, notre Seigneur, devant ces mêmes apôtres, avait multiplié les pains pour nourrir 5 000 personnes. Et il semble que les apôtres ont tout oublié. qu'ils ne se souviennent plus. Et il pose donc cette question, comment quelqu'un pourrait-il rassasier cette foule ici dans le désert ? Cela nous montre que les hommes, par eux-mêmes, sont démunis. Ce n'est pas par nos moyens humains que nous pouvons nous sauver, ni nous protéger du monde, du démon ou même de nous-mêmes. Nous sommes dans un désert. Ce désert, le texte dit un lieu solitaire, c'est le symbole précisément du monde dans lequel nous nous trouvons. Ce monde est comme un désert triste et aride. C'est sûr, nous le savons bien par expérience, il y a beaucoup de peines, de tracas, de soucis dans le monde. Alors désert ici, c'est à prendre dans un sens figuré, évidemment. Le désert dont parlent ici les apôtres, on est au bord du lac de Galilée, ce n'est pas un véritable désert, mais c'est un lieu retiré, loin de toute habitation, un lieu isolé. Alors qui pourra donner du pain à cette foule ainsi éloignée de toute habitation ? Où trouver ce pain ? On pourrait appliquer ces paroles des apôtres à ce que nous vivons aujourd'hui. Quand les ministres de l'Église ne distribuent plus le pain que Jésus-Christ a multiplié pour qu'il le donne aux âmes, quand les ministres de l'Église oublient ce pourquoi ils sont députés, ce pourquoi ils ont été faits, c'est-à-dire de donner la parole de Dieu, de donner la vérité révélée, eh bien, ils deviennent incapables de rassasier les âmes. Et les âmes restent affamées. Notre Seigneur l'a dit dans l'Évangile, « Vos fils demandent du pain et vous ne leur donnez que des scorpions ». C'est bien ce qui se passe aujourd'hui. On voit de plus en plus les responsables, les autorités romaines, les responsables de l'Église conciliaire, s'appuyer sur des moyens humains et s'égarer dans des enseignements frelatés, dans des enseignements qui ne sont plus les enseignements que notre Seigneur veut que l'Église donne aux âmes. Vous le savez, vous l'avez entendu sans doute, c'est un fait tout récent. Le pape vient de publier une encyclique dans laquelle il se fait le promoteur du mondialisme et où il défend l'écologie. Où nous trouvons-nous ? Quand on y réfléchit, c'est incroyable. Tout ça en s'appuyant sur des textes de Teilhard de Chardin ou d'autres références encore plus sulfureuses que celle-là, d'ailleurs. L'Église n'est pas... L'Église, quand je dis l'Église, c'est évidemment pas l'Église qui parle ainsi. Les hommes d'Église ne sont pas les promoteurs du mondialisme ou de l'écologie. On n'est pas là pour prêcher contre le réchauffement climatique. En plus, tout le monde le sait bien, ce sont des lieux communs qui ne sont que l'écho d'un certain nombre de doctrines qui sont des doctrines plus ou moins sulfureuses. Alors, il faut donc que les apôtres se fassent vraiment l'écho de la parole de notre Seigneur et distribuent le pain que notre Seigneur multiplie, et non pas quelque autre nourriture que ce soit. L'Église possède en effet 7 pains. Notre Seigneur demande à ses apôtres « Combien de pains possédez-vous » Et les apôtres répondent « 7 ». Alors, évidemment, il faut comprendre que notre Seigneur, en faisant son miracle, a réellement multiplié 7 pains. C'est un fait historique. Le chiffre n'est pas inventé. Mais derrière ce chiffre, il y a aussi un symbole. Vous savez que 7 est un chiffre symbolique qui symbolise la plénitude. Cela nous montre que le pain de la parole du bon Dieu, les grâces de Dieu, les vérités divines, nous offrent une plénitude qu'aucune autre vérité ne peut nous offrir. Et derrière ce chiffre 7, qui signifie donc la plénitude des dons divins, on peut voir beaucoup de choses. On peut appliquer ça aux 7 sacrements, aux 7 vertus, les 3 vertus théologales et les 4 vertus morales, les vertus cardinales, aux 7 dons du Saint-Esprit, aux 7 béatitudes, aux 7 demandes du Pater. Il y a beaucoup de choses dans notre religion qui tournent autour de ce chiffre 7, et c'est voulu. C'est tout à fait consciemment que le bon Dieu a voulu qu'il en soit ainsi, pour nous montrer justement que les dons de Dieu sont des dons absolument parfaits. Les enseignements de notre Seigneur donnent la vie aux âmes et la vie éternelle. Le pain, dans la Sainte Écriture, signifie ordinairement la parole de Dieu, les enseignements de Dieu, la connaissance de la vérité, la bonne doctrine. Donc vous voyez qu'en parlant de ces sept pains, l'Évangile veut nous montrer, veut nous dire que ce que nous donne notre Seigneur, c'est la vérité divine. Jésus distribue aux âmes, par le ministère de son Église, la vérité divine, la doctrine du salut. Et puis ces pains sont accompagnés de petits poissons. Ces poissons, qui sont comme le condiment ajouté au pain, désignent les grâces de surérogation attachées à chaque acte de la vie chrétienne. Mais aussi, et c'est peut-être quelque chose de plus profond, on peut voir dans ces petits poissons tout ce qui regarde la personne et le mystère de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez que le poisson est le symbole de notre Seigneur Jésus-Christ. Si un jour vous visitez les catacombes romaines, mais on voit ça dans beaucoup de livres, on voit représenter partout sur les parois de petits poissons qui sont dessinés, et c'est ainsi que les premiers chrétiens évoquaient notre Seigneur, c'était comme un signe de reconnaissance. Pourquoi le poisson ? Parce que le mot grec par lequel on désigne le poisson, le mot ictus, si on prend chacune des lettres de ce mot, ça forme une petite phrase qui signifie Jésus-Christ, fils du Dieu sauveur. Jésus Christos, Théou, Uios, Soter. Jésus-Christ, fils du Dieu sauveur. Alors le poisson est vraiment le symbole de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc on peut comprendre que les vérités enseignées, le pain de la doctrine que l'Église doit nous donner, doit nous distribuer, n'aura pas de saveur, ni de profondeur, ni de goût, si ce pain ne contient pas notre Seigneur Jésus-Christ. La nourriture dans laquelle il n'est pas question de notre Seigneur Jésus-Christ reste fade, inconsistante, vide. Le pain de l'enseignement chrétien a besoin du condiment du poisson. C'est le nom et la réalité de Jésus qui donne à la vérité toute sa saveur, sa profondeur et son efficacité. Et il y a là quelque chose de très profond. On attribue à Saint Jérôme une phrase dans laquelle Saint Jérôme dit que quand il lisait un texte dans lequel le nom de Jésus ne se trouvait pas, il trouvait que ce texte était sans saveur, n'avait pas d'intérêt. Et au terme de la distribution, les disciples ramassent sept corbeilles de reste. Ces sept corbeilles signifient la surabondance des dons divins. Quand Dieu a distribué sa parole, il en reste toujours. Dieu n'est pas chiche, il multiplie vraiment pour nous les dons de sa miséricorde, au point qu'il ne nous est pas possible de tout inventorier, de tout connaître, de tout retenir. Et de fait, si l'on considère la richesse de la tradition chrétienne, le trésor des pères de l'Église, les écrits des saints, l'exemple des martyrs, la richesse de l'Écriture sainte, c'est infini, il n'y a pas de limite. Les plus simples comme les plus savants y trouvent leur compte. Et on n'a jamais terminé d'inventorier ou d'épuiser les richesses de ces textes. Il y a toujours des restes. Et là aussi, il y a quelque chose qui est très profond. Alors enfin, pour profiter de tous les enseignements délivrés par ce miracle et le mystère qui y est comme caché, il faut considérer aussi, pour terminer, ce qui est dit des 4000 hommes, c'est la dernière phrase de notre évangile. Il y avait là 4000 hommes qui ont profité de ce miracle. 4000 hommes qui ont bénéficié de cette multiplication merveilleuse. Eh bien, ces hommes, c'est nous. C'est donc toute cette foule qui, au fil des siècles, a bénéficié des enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ par le truchement de son Église. Pourquoi 4000 ? Là encore, le chiffre est réel. C'est un récit historique, mais en même temps c'est un chiffre symbolique. Le 4 dans la Sainte Écriture est le chiffre qui désigne tout ce qui est terrestre. Et de fait, nous sommes ici-bas dans un statut terrestre. Nous ne sommes pas encore au ciel. Le ciel, c'est pour plus tard. Mais tant que nous sommes ici-bas, nous sommes sur cette terre soumis à bien des vicissitudes, des difficultés, des tentations. Et donc nous avons besoin justement de cette nourriture. Il ne faut pas rester à jeun de la nourriture divine, sans quoi nous allons défaillir. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans le texte, il y a un certain nombre de conditions qui sont suggérées pour que nous comprenions tout ce qui est nécessaire pour bénéficier vraiment de la multiplication des pains que Jésus opère pour nous. Quelles sont ces conditions ? D'abord, il y a le petit mot « sustinent », Vous voyez que cette foule a demeuré, elle est restée un certain temps, elle a attendu pendant 3 jours, sans s'inquiéter, voulant écouter la parole du bon Dieu. Tout cela indique la persévérance. Si nous ne sommes pas persévérants, nous ne pourrons jamais goûter vraiment les vérités du bon Dieu, les vérités de l'Évangile. La doctrine catholique, pour pouvoir vraiment profiter à nos âmes, nécessite de notre part une grande persévérance. Il ne faut pas se décourager dès le premier jour parce que nous n'avons pas compris tel texte d'Évangile, parce que la prière est difficile, parce qu'il y a des épreuves, parce qu'il y a des tentations. Il faut persévérer, il faut attendre. Ensuite, nous voyons que toute cette foule a suivi Jésus dans ce désert. Elle s'est écartée de la ville, des milieux habités, pour suivre Jésus dans ce désert. Nous aussi, il nous faut suivre notre Seigneur dans le désert, c'est-à-dire savoir s'écarter du monde, couper avec le monde, nous séparer de tout ce que le monde peut nous offrir et qui risquerait de nous écarter de notre Seigneur Jésus-Christ, et en même temps ne pas s'inquiéter de l'avenir. Cette foule, c'est paradoxal, c'est incroyable quand on y pense, ne s'inquiétait pas au bout de 3 jours de ce que les uns et les autres allaient bien pouvoir manger. Depuis longtemps, les provisions étaient épuisées. Et pourtant, cette foule restait confiante, dans un abandon total, se remettant entre les mains de notre Seigneur, ne désirant qu'une chose, c'était d'écouter sa parole, ne s'inquiétant pas du reste. Il y a là une belle attitude d'âme qui, pour nous, est pleine de leçons. Évidemment, cette foule, le texte ne le dit pas, mais on le devine, elle avait faim de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'elle était là, pour écouter notre Seigneur. Et puis enfin, pour recevoir les pains, Jésus les fait asseoir, et il les fait asseoir par terre, c'est ce que dit le texte. Et cela symbolise l'humilité. Pour recevoir la parole du bon Dieu et pouvoir bien en profiter, nos cœurs doivent être humbles, doivent être dans cette disposition d'âme essentielle. Aucune parole divine ne peut pénétrer dans une âme orgueilleuse. Il faut l'humilité, il faut être réceptif, disponible, parfaitement malléable dans la main du bon Dieu. Alors tout cela nous amène peut-être à prendre quelques résolutions pour les vacances qui commencent. Une résolution que nous nous permettons de vous suggérer, c'est de profiter de ces vacances pour faire quelques bonnes lectures, spécialement pour mieux connaître notre Seigneur Jésus-Christ et sa doctrine, pour essayer de bien profiter de ces dons divins que le Seigneur multiplie et a multiplié pour nous et qu'il continue de multiplier jour après jour. Les livres ne manquent pas qui nous rapportent la vie de Jésus et des commentaires sur tous ces mystères extraordinaires, les commentaires d'Évangile, il y en a beaucoup. Par exemple, vous pouvez lire ou relire Don Marmion, le Christ dans ses mystères. C'est un très beau livre. Il existe d'ailleurs non seulement en format papier, mais il a été enregistré. C'est un livre que vous pouvez trouver sur notre table de presse. Tout le livre est enregistré par quelqu'un qui le lit, et c'est très audible, on entend très bien. C'est un commentaire de la vie de Jésus, un commentaire d'Évangile. Ou encore, vous avez le beau commentaire de Ludolf le Chartreux, La grande vie de Jésus-Christ de Ludolf le Chartreux. Il y a quelques années, les éditions Clovis ont édité de grands extraits de cette vie dans lequel cet abbé Chartreux fait un commentaire qui reprend le meilleur des pères de l'Église. C'est un petit trésor. Vous avez aussi les commentaires d'Évangile de Don de Latte, ou tout simplement l'Évangile, de lire chaque jour une page d'Évangile. Ce sont des choses dont nos âmes ont besoin. Alors nous demanderons pendant ces vacances, à l'aube de ces vacances, au bon Dieu et à Notre-Dame, de nous faire prendre cette bonne résolution de passer de vraies vacances chrétiennes et de profiter du temps qui nous est donné, des loisirs qui nous sont donnés, pour nourrir nos âmes et pour lire un petit peu de belles choses sur ces textes d'Évangile, sur tous ces beaux récits que l'Église nous propose, de telle manière que nous sortions de là davantage nourris. C'est ce que nous demandons dans l'oraison de la messe d'aujourd'hui. Cette oraison s'exprime ainsi. C'est les derniers mots de l'oraison. Quae sunt bona nutrias, ac pietatis studio, quae sunt nutrita custodias. Que vous nous nourrissiez de bonnes choses. On demande ça au bon Dieu. Que le bon Dieu nous nourrisse de bonnes choses. C'est exactement ce que nous avons dit. Et que par le soin de votre bonté, continue l'oraison, ce dont vous nous aurez nourris, vous nous le conserviez. Il faut que non seulement nous nous nourrissions, que nous mangions de ce pain merveilleux que le bon Dieu a multiplié pour nous, mais encore que par la grâce de Dieu, nous conservions tout ce que nous aurons ainsi mangé, ce pain de la doctrine chrétienne dont le bon Dieu nous aura nourris. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.